100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Validée en deuxième lecture au Parlement, la fameuse réforme des retraites qui met les Russes en colère et les fait descendre dans la rue, le texte prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 60 ans pour les femmes. Autant dire une révolution et la levée d'un tabou dans un pays où l'espérance de vie n'atteint même pas 70 ans. Ces derniers mois, plusieurs journées de mobilisation nationale ont été organisées, notamment par le Parti communiste. Un reportage à Tver, à 200 km au nord de Moscou, signé Étienne Bouche.
Rue de l'Hippodrome, la section locale du Parti communiste a suivi tous les appels à manifester de la direction centrale. Avec la réforme des retraites, le parti s'est trouvé une grande cause sociale à défendre. Une manière aussi de conjurer son recul. Artyom Gontcharov est député communiste du Parlement local. Il déplore une économie sinistrée et dépendante du budget fédéral. Tver souffre de sa trop grande proximité avec la capitale qui aspire sa jeunesse. Le député espère que la mobilisation contre le projet de loi permettra d'attirer de nouveaux militants.
La réforme des retraites a remis en avant des idées de gauche parce qu'il s'agit d'une question de justice sociale. Un type comme moi est imposé à 13%, autant qu'un oligarque comme Deripaska. Sauf que l'État lui garantit des avantages pour ses affaires, alors que moi, il tente de me rouler dans la farine avec la réforme des retraites. Non mais, où est la justice ?
Le dernier rassemblement a bien été autorisé, mais dans un quartier excentré. En face du lycée polytechnique, une petite centaine de personnes s'est retrouvée au pied d'un Lénine argenté. Une mobilisation pas vraiment à la hauteur des espérances des organisateurs. Le discours sur l'économie soviétique florissante a parlé aux plus nostalgiques, tandis que certains slogans démagogiques ont capté la colère populaire.
Nous ne sommes pas venus pour les retraités, nous sommes venus pour la jeunesse, lutter pour nos enfants, nos petits-enfants. Vivre dans ces conditions, c'est tout simplement impossible. Nous sommes pour le socialisme.
Depuis l'annonce du projet de loi en juin dernier, le Parti communiste local a organisé 3 rassemblements. Cette réforme est devenue le principal sujet de préoccupation des Russes. Vladimir Poutine s'était engagé à ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite, ce qui explique l'affaiblissement de son indice de confiance. Seule concession à la colère populaire, le chef de l'État a annoncé fin août un assouplissement concernant les femmes qui ne partiraient plus à 63 mais à 60 ans. Si le texte suscite un tel tollé, c'est notamment parce que l'espérance de vie est faible. German Golovanikhin est secrétaire adjoint du syndicat de TVZ, le fabricant de wagons qui est le premier employeur de la région.
Déjà, on ne peut pas parler de réforme. On repousse juste l'âge de départ à la retraite sans tenir compte du reste. Il est clair que l'espérance de vie est en fait bien plus basse que le chiffre officiel qui n'est qu'une projection. En réalité, un homme vit jusqu'à 63, 64 ans, ce qui veut dire qu'une grande partie de ces hommes ne vivront même pas jusqu'à leur départ à la retraite. C'est mieux pour les femmes, sauf qu'il n'y a pas de travail. Et si elles n'en ont pas, elles resteront à la maison.
Et lorsqu'elles sont à la retraite, les femmes russes doivent souvent travailler pour joindre les deux bouts. Dans le centre de Tver, plusieurs femmes sont assises devant un magasin de téléphonie. Parmi elles, Lyudmila se distingue par ses cheveux apprêtés et un foulard bariolé autour du cou. Cette retraitée de 57 ans propose des astères contre quelques roubles.
Ici, nous vendons nos fleurs, celles de notre jardin, une manière de compléter nos pensions qui sont insuffisantes. Je touche 8000 roubles par mois. Cette réforme est terrible. L'État se moque des retraités et de ceux qui s'apprêtent à le devenir.
Le Parti communiste est la principale force politique à s'opposer à la réforme des retraites. Mais la sincérité de son engagement est mise en doute. Le journal Novaya Gazeta souligne que le parti n'ose pas une confrontation véritable avec le pouvoir. Natalia Malakhova abonde dans ce sens. La jeune femme travaille pour l'antenne locale du mouvement d'Alexei Navalny, l'opposant le plus virulent à l'égard du système politique actuel. Elle assure que des propositions d'action commune ont été faites aux communistes, mais qu'elles sont restées sans suite.
Les communistes incarnent une opposition de façade. Ils agissent en accord avec l'administration. Comme ils sont présents à la Douma, ils se considèrent comme une opposition parlementaire, sauf qu'à quelques exceptions près, dans les faits, ils votent systématiquement en faveur des lois du parti de la majorité, Russie Unie. Ils ont visiblement compris qu'ils perdraient tout soutien s'ils défendaient l'adoption de la réforme des retraites.
Le représentant adverse du mouvement de Navalny a été arrêté le 9 septembre lors d'une manifestation non autorisée. Il purge une peine de 20 jours de prison. Alexei Navalny lui-même a de nouveau été arrêté ce lundi. À l'évidence, les autorités veulent contenir le mécontentement. Ce week-end, le parti Russie Unie a essuyé deux défaites électorales dans les régions de Vladimir et de Khabarovsk. Des résultats qui n'ont pas profité au parti communiste, mais au LDPR, le parti nationaliste du tonitruant Vladimir Jirinovski.
Et en Pologne, c'est un tout autre son de cloche. Le parti au pouvoir, le PiS, le parti droit et justice de Jarosław Kaczyński, veut séduire les retraités. À quelques mois des prochaines élections municipales, il leur promet une allocation de 500 zloty, à peu près 120 euros, la même qui a été accordée pour le deuxième enfant. Mais le gouvernement peut-il se permettre une telle générosité? À Varsovie, Thomas Giraudeau.
La Pologne compte 9 millions de retraités, près d'un quart de sa population, autant de bulletins de vote potentiels. Alors le chef du parti majoritaire, Jarosław Kaczyński, promet de leur verser une allocation allant jusqu'à 500 zloty par mois, environ 120 euros. Problème, où trouver l'argent? Kaczyński assure que la mesure est finançable, mais verser un chèque de 500 zloty tous les mois à l'ensemble des retraités du pays coûterait chaque année plus de 12 milliards d'euros. Impossible aujourd'hui de dépenser une telle somme, selon plusieurs économistes, car le déficit public prévu pour cette année atteint déjà quasiment 10 milliards d'euros, en cause notamment l'allocation mensuelle par enfant de 500 zloty, dite 500+, versée depuis 2 ans aux parents dès leur deuxième enfant. Alors pour financer sa promesse, le PiS pourrait plutôt réserver l'allocation aux retraités les plus pauvres, ceux qui touchent moins que le minimum légal par exemple. Il serait à peine 200 000 sur les 9 millions de retraités ciblés par le chef du parti Droit et Justice.
Les Macédoniens aux urnes ce dimanche pour un référendum qui validera ou pas le nouveau nom de leur pays. Macédoine du Nord, une appellation nouvelle qui met un terme à 27 ans de contentieux avec la Grèce. Une décision d'importance puisque la fin du différend donnera enfin une chance à ce petit pays d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Vrai gage de stabilité alors que dans les Balkans, on parle à nouveau de redessiner les frontières. C'est le reportage de Laurent Gélin.
Depuis quelques mois, les Balkans bruissent de rumeurs. À Belgrade comme à Pristina, on explique régulièrement qu'une correction des frontières entre la Serbie et le Kosovo pourrait être une solution pour régler les différends entre les deux pays. Menées depuis 2011 sous l'égide de l'Union européenne à Bruxelles, les négociations sur la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina n'ont donné que des résultats très limités. Alors, pour faire avancer le dossier, Johannes Hahn, le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage, se dit aujourd'hui prêt à toute nouvelle idée.
L'une des idées pour résoudre la question pourrait être une restructuration des frontières ou un échange de territoires. Cette idée a été évoquée par les deux présidents, et je plaide juste pour les laisser négocier et ne pas condamner immédiatement ces idées. Toutes les solutions bilatérales doivent contribuer à la paix et à la stabilité, et non le contraire.
Une importante minorité serbe vit toujours au nord du Kosovo, tout comme des populations albanaises dans le sud de la Serbie. Échanger des territoires entre les deux pays pourrait donc être une façon de simplifier la carte communautaire de ces États. Mais ce compromis pourrait surtout bousculer les frontières de la région et il fait déjà couler des sueurs froides dans le petit pays de 2 millions d'habitants qu'est la Macédoine, où habite une large communauté albanaise. Albert Mousliou est analyste politique.
La Macédoine est constituée de deux grands groupes ethniques, les Macédoniens, qui représentent la majorité, et les Albanais, qui représentent officiellement 25% de la population totale, et qui sont regroupés dans certaines régions du pays. Donc, vous pouvez tirer les conclusions par vous-même. Deux pays parlent d'échange du territoire, et vous avez à côté l'ethnogéographie macédonienne. La conclusion est évidente.
Le 30 septembre, les citoyens macédoniens sont appelés à valider un référendum qui doit entériner un accord conclu avec la Grèce sur la question du non. Si les électeurs se prononcent en faveur du compromis, la Macédoine pourrait changer d'appellation, devenir la Macédoine du Nord et ainsi lever le veto grec qui bloque Skopje aux portes de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour beaucoup, intégrer l'Alliance Atlantique serait une façon de garantir les frontières du pays, 100 ans après les bouleversements territoriaux intervenus après la fin de la Première Guerre mondiale.
Tout le monde parle de modification de frontières, alors que nous ne sommes pas sûrs de ce qui va arriver en Macédoine. Si le référendum tourne mal et que la modification des frontières est actée, si les deux phénomènes coïncident, cela va ouvrir de nombreuses questions frontalières dans les Balkans. Et croyez-moi, il n'y a pas de pays dans les Balkans, y compris ceux faisant partie de l'Union européenne, qui n'aient de questions frontalières. Et celles-ci seront bientôt plus difficiles à régler que les problèmes de la petite Macédoine.
Une vision alarmiste que partage la journaliste Sashka Svetovska. En cas d'échec du référendum, le chaos pourrait revenir.
Nous verrons beaucoup plus d'instabilité et d'insécurité, et ça pourrait mener à des guerres sanglantes, telles que celles des années 90, dont personne ne veut se souvenir. Et vous savez, on dit souvent, ce qui arrive dans les Balkans ne reste jamais dans les Balkans.
Selon cette dernière, valider le référendum et adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN permettrait au contraire d'atténuer les tentations nationalistes qui sommeillent dans la région.
Cela va créer une nouvelle alliance entre la Macédoine, la Bulgarie et la Grèce. Ça va partout amoindrir l'influence des radicaux et ça va être une garantie pour l'intégrité territoriale des pays de la région.
Un argument de plus pour tous les Macédoniens qui veulent entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN.
Welcome to Shoreditch. There's pubs, clubs, bars and drugs where yuppies rave to the morning. It's nigh on impossible to find this place boring. Poets, bands, magicians and gangs are around here touring.
C'est un quartier symbole du renouveau de Londres, de sa capacité à se réinventer hors des sentiers battus. Shoreditch à la côte, mais pas forcément pour ses habitants. Ses rues fourmillent de dealers et de crack à tel point que des voisins ont demandé à un collectif d'artistes de mener une campagne coup de poing pour dénoncer le trafic de drogue à Londres, Marie Billon.
Columbia Road, une petite rue bordée d'un côté d'un parc et de l'autre de petites maisons avec des boutiques au rez-de-chaussée. C'est dans ce genre d'endroit qu'on se souvient que Shoreditch n'est pas entièrement victime de la gentrification ou boboisation. C'est d'autre chose dont ce quartier est victime, selon les riverains, du trafic de drogue. Certains disent que la valse des dealers et des acheteurs est constante 24h sur 24, 7 jours sur 7 et que la police ne fait rien ou pas assez pour arrêter ça. Alors, l'association de résidents Weavers Community Action Group a demandé à un collectif d'artistes de redécorer leur rue de manière provocante. Un dimanche de mi-septembre, des panneaux de signalisation qui, à première vue, avaient l'air tout à fait classiques, sont apparus. Sauf qu'en bas d'un panneau rond avec deux flèches indiquant une route en double sens, il y avait écrit « Cédez le passage aux dealers d'en face ». Sur un autre panneau, noir et blanc, cette fois comme ceux qui indiquent les stationnements réservés, était écrit « Crack Pickup Point, point de collection du crack ». Et au sol, des marquages blancs indiquaient que la place était pour les drug dealers only, pour les dealers uniques. Alors, pourquoi ce genre d'action coup de poing ? Eh bien, car les résidents avaient déjà essayé des panneaux d'affichage plus artisanaux indiquant des drogues free zones, des zones sans drogue. Cette initiative d'un collectif d'artistes appelé le Columbia Road Cartel a, elle, fait parler d'elle. La preuve, moins de 24 heures plus tard, les panneaux étaient enlevés, les marquages au sol effacés. Un comble, disent les résidents, quand on sait qu'une voiture a embouti un poteau il y a plusieurs semaines et qui n'a toujours pas été réparé. Les autorités locales, de leur côté, ont assuré avoir investi l'équivalent de 3 millions d'euros pour renforcer les effectifs policiers, alors même que l'État veut les réduire.
La baguette parisienne va-t-elle figurer au patrimoine culturel de l'UNESCO ? Le Conseil de Paris vient en tout cas d'apporter son soutien à la demande de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie. Le fameux repas à la française avait déjà bénéficié d'une telle distinction. Mais ailleurs, en Europe, quelles sont les traditions qui sont distinguées et pourquoi faire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Tout d'abord Daniel, en quoi consiste cette inscription ?
Tout le monde connaît l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. y figurent des centaines de sites naturels, monuments ou quartiers de villes du monde entier, dont plus de 400 en Europe. Avec 44 inscriptions, la France y occupe la 4e place mondiale et la 3e européenne. Mais en 2003 a été signée une autre convention visant à sauvegarder cette fois le patrimoine culturel immatériel, le PCI. Autrement dit, des traditions ou expressions, des arts et spectacles, des pratiques sociales, des rituels, des savoir-faire liés à l'artisanat.
Sans établir un concours entre les différents pays européens, la France est-elle souvent sélectionnée pour être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ?
Contrairement à ce que l'on observe pour le patrimoine physique, la taille du pays joue beaucoup moins en ce qui concerne le patrimoine immatériel. En Europe, la France se situe néanmoins, avec 15 activités retenues, en deuxième position derrière l'Espagne, 16 activités, mais à égalité avec la petite Croatie et pas très loin devant la Belgique. En France, on a beaucoup parlé de l'inscription en 2010 du repas gastronomique des Français, qui allie recettes de terroir, gradation des saveurs, mariage entre mets et vins et convivialité. Ensuite, à côté de l'artisanat d'art traditionnel comme la tapisserie d'Aubusson ou les dentelles d'Alençon, on trouve des pratiques ou des savoir-faire plus généraux comme l'équitation de tradition ou le compagnonnage ou encore un événement beaucoup plus spécifique, les ostensions septennales limousines, terme savant désignant les cérémonies ou processions organisées tous les 7 ans en vue de l'exposition des reliques des saints conservées dans les églises du Limousin.
Alors j'imagine, Daniel, que l'on trouve de pareilles bizarreries ailleurs.
Plus ou moins, en effet. Ainsi, pour la Croatie, qui aligne une liste de pratiques culturelles aussi longue que celle de la France, l'UNESCO a inscrit la marche des sonneurs de cloches, la fabrication des jouets en bois pour enfants ou encore l'art du pain d'épices. Quant à la Belgique, elle a vu consacrer, outre divers processions et carnavals, la culture de la bière, ce qui n'étonnera personne, mais également 15 marches folkloriques de l'antre Sambre et Meuse ainsi que la pêche aux crevettes à cheval.
Et l'Italie ou l'Espagne ne sont pas vraiment en reste, j'imagine.
La reconnaissance de l'art du pizzaiolo napolitain devrait rendre optimistes les défenseurs de la baguette parisienne. Mais l'Italie est aussi le pays d'Arlequin qui voit célébrer le théâtre de marionnettes sicilien, tandis que le souvenir de Stradivarius a convaincu de couronner le savoir-faire traditionnel du violon à Crémone. Pour ce qui est de l'Espagne, le pays de l'Union où les activités et pratiques inscrites à l'UNESCO sont les plus nombreuses, on relèvera sans surprise le flamenco, voire la fête des patios de Cordoue. En revanche, on est beaucoup plus intrigué par les pyramides humaines de Catalogne, censées symboliser l'équilibre, le courage et le bon sens de la région autonome. Ou encore les tribunaux coutumiers mis en place pour résoudre les conflits d'irrigation. Mais la palme de l'originalité est la protection accordée au langage sifflé de l'île de la Gomera, aux Canaries, qui parvient à si bien faire entendre sur 10 km de distance 5 voyelles et 20 consonnes qu'il est désormais enseigné à l'école. Tout cela peut paraître très anecdotique, mais l'ingéniosité poétique des humains est bien l'expression de leur culture.
Et à quoi sert finalement l'inscription à ce patrimoine immatériel ?
Ces activités, souvent peu rentables, sont ainsi mises en avant au niveau international et tirent de cet effet de notoriété des bénéfices très concrets en termes de fréquentation touristique ou de développement commercial. Elles font également l'objet de rapports réguliers de l'UNESCO, ce qui permet d'en suivre l'évolution et de mobiliser éventuellement des financements publics ou privés si elles périclitent ou tendent à se dénaturer.
Et l'UNESCO accorde-t-elle des soutiens directs à ces activités ?
La plupart d'entre elles figurent dans une liste représentative qui n'a pas vocation à être financée par l'UNESCO. En revanche, il existe une liste de sauvegarde urgente pour les activités en péril. Celles-ci sont susceptibles de recevoir une assistance financière de l'organisation tirée d'un fonds spécial actuellement doté de 8 millions de dollars. Mais à 5 exceptions près, l'Europe n'est pas concernée par ces sauvegardes qui s'adressent essentiellement aux pays déshérités.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grolot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique émissions et Accent d'Europe. On se retrouve dès demain.